C'est ici au Brésil en 2004 que j'ai commencé mon apprentissage des percussions brésiliennes. À cette époque, déjà, de nombreux étrangers venaient régulièrement dans le Nord-Est pour se former comme moi aux percussions et à des styles populaires encore peu diffusés internationalement. Découvrir l'existence massive de ce tourisme musical et comprendre que je faisais partie de cette catégorie des gringos de la batucada, comme je disais, m'a très vite encouragée à mener un travail de recherche sur cet attrait pour les musiques de percussion brésiliennes et plus largement sur le désir occidental d'appropriation de la culture des autres. Cette recherche au long cours est devenue collective, politique et partagée avec des Brésiliens et des gringos que j'ai croisés pendant plusieurs années sur ma route d'anthropologue et de musicienne. Vingt ans plus tard, le phénomène d'appropriation culturelle est devenu un débat de société très médiatisé. J'ai eu le temps d'ailleurs d'arrêter à plusieurs reprises la pratique des percussions, jusqu'à replonger dans mon enquête avec cette envie de réaliser un documentaire sur l'appropriation musicale du coco brésilien, notamment par mes collègues françaises du groupe Poplité, que vous entendez derrière moi, et plus généralement par des personnes non brésiliennes, blanches, occidentales. Mais ce documentaire de notre bande de gringa au Brésil n'a pas trop intéressé les financeurs non brésiliens, blancs et occidentaux. Pourtant, ces questionnements autour de l'appropriation culturelle traversent les milieux musicaux que nous côtoyons au quotidien en France. Et beaucoup de nos camarades identifient dans cette affaire une sorte d'urgence à ouvrir la parole sur les enjeux politiques et sociaux autour des cultures populaires, traditionnelles, minoritaires et vulnérables. Parler d'appropriation culturelle depuis l'Occident, ça paraît un peu casse-gueule ou du moins inconfortable. Mais finalement, je me suis demandé si ce n'était pas le lieu idéal d'où étudier le phénomène. N'est-il pas temps de nous mettre au travail depuis chez nous, sur nos pratiques d'appropriation, sur cette prétendue ouverture à la diversité et sur nos angles morts inhérents à cette place privilégiée d'occidentaux et d'européens? Alors le Brésil, nous y reviendrons peut-être plus tard. C'est un autre documentaire que je vous propose ici, celui de l'état de notre réflexion collective sur l'appropriation culturelle et ses enjeux. Nous y aborderons des notions indissociables de ce questionnement, comme la race, la classe, la colonialité, la légitimité, la propriété, la tradition ou encore la création. Dans ces chroniques impertinentes, nous aborderons des pratiques ordinaires d'appropriation musicale en rencontrant des artistes, des intellectuels francophones, en traversant une pluralité de mondes musicaux qui cohabitent dans une même ville. En effet, et pour nous déplacer un peu dans ce qu'il est convenu d'appeler l'Occident, j'ai choisi d'ancrer cette enquête à Marseille, métropole foisonnante de musique, de langues et de projets décentrés. Et la musique, elle est à qui ? Chronique marseillaise et impertinente d'appropriation manifeste. Un podcast réalisé par Anaïs Vaillant et proposé par la FAMDT.
Le fait de voir des métropolitains jouer du maloya, pour moi, au début, c'était un peu dérangeant. Puis, y avait surtout la question, nous, on est créole, donc il faut qu'on joue toujours mieux que les oreilles qui va jouer la musique de chez nous.
Première chronique, mise en l'air, mise en care. Ou comment l'appropriation du maloya, genre musical de l'île de la Réunion, nous ramène à l'histoire coloniale et à ce qu'elle génère encore d'inégalités sociales, raciales et culturelles. Avec les musiciennes Sandra Richard, Sana Elbajnouni et l'anthropologue Harry Gordien. Il existe à Marseille une chorale de chants traditionnels réunionnais, le Ker Maloya. Ce chœur est essentiellement composé de femmes. Vous en entendrez ici deux d'entre elles, Sandra et Sana. L'une est réunionnaise, l'autre pas. Elles chantent ensemble le Maloya, le Sega, et partagent ici leurs questionnements sur des pratiques de transmission et d'appropriation du Maloya.
Il faut savoir que la particularité chez moi, c'est que j'ai commencé à pratiquer le Maloya à Marseille, donc en France, et pas à La Réunion. Donc c'est vraiment quand j'ai créé l'association Fondcair en 2010 que j'ai commencé à programmer aussi des groupes Maloya, à faire des événements autour du Maloya, où un jour, on m'a dit « prends un caillan, mais viens jouer ». C'est vraiment en France que j'ai appris vraiment le Maloya, le chant, la pratique des instruments et je me forme encore au Maloya.
J'ai grandi à Nice et assez jeune, à 7 ans, j'ai pris des cours de chant. J'ai pris des cours de chant pendant des années aussi avec un gars en centre-ville de Nice. J'ai toujours eu cette pratique pour apprendre. Mais j'ai mis beaucoup de temps avant d'avoir la confiance et de me lancer. Et puis quand je suis arrivée à Marseille en 2009, là j'ai rejoint une chorale occitane et italienne, Color de Mai. C'était beaucoup de chants de lutte, occitans et italiens. Jusque-là, je n'avais encore jamais chanté toute seule ou pris de lead vraiment. Toujours de la timidité, un endroit où je n'avais pas confiance en moi. Jusqu'à ce que j'intègre chorale de Maloya à Marseille. Moi, le Maloya, je le découvre tout simplement en écoutant des disques de Daniel Waro, où je tombe complètement amoureuse de sa voix, de son chant, de ce rythme qui m'a pas mal happée. En 2015 ou 2016, je découvre que Jean-Didier Waro, le neveu de Daniel Waro, a une chorale ici à Marseille, chorale de Maloya. J'ai mis du temps avant d'y aller. Finalement, j'ai intégré cette chorale. C'est Jean-Didier Waro qui était le chef de chœur. Très vite, c'est Sandra Richard qui a pris sa place.
Comment tu vis cette fonction de passeuse de chant en tant que réunionnaise vers des non-réunionnaises ?
Pour moi, c'est important dans ma transmission de respecter cette musique. Quand je commence l'année et qu'il y a des nouvelles têtes dans la chorale, j'explique ce que c'est que le Maloya, d'où vient le Maloya, les influences, l'histoire. Quand on aborde un morceau, je vais d'abord expliquer qui l'a écrit, quel groupe, d'où il vient dans la Réunion, la signification. Avant même de chanter, on va d'abord prononcer les mots. On va prendre le temps de prononcer et puis de traduire, bien sûr. Et seulement après, on va placer la voix. J'essaie vraiment de transmettre un maximum d'informations pour que le rendu soit bien. On peut apprendre n'importe quelle rythmique, les tambours et tout. Après, il y a un groove dans le Maloya qu'il faut avoir, mais on peut l'acquérir, tout le monde peut l'avoir, mais c'est vrai que ce qui me dérangeait quand je voyais justement des métropolitains chanter, c'était l'accent. Pour moi, c'était important de respecter la manière dont on va prononcer les mots en créole. Quand on chante, il faut savoir ce qu'on chante. Et la manière dont on va l'interpréter, la manière dont on va le prononcer, pour moi, c'est important. Parce que dans nous, à nos oreilles de créole, de voir des blancs chanter notre musique, mais ne pas le chanter comme il faut, C'est un peu dérangeant, quoi. Parce que c'est une identité aussi. Le maloya, c'est les percussions, c'est la danse, c'est le chant, c'est l'écriture, c'est dire ce qu'on a à dire, c'est une musique ancestrale, les racines, c'est l'esclavage, c'est toute une histoire. Donc c'est important d'apprendre aussi la manière dont on va le chanter. Et donc, même si on a l'habitude de parler français et qu'on a un fort accent français, il faut quand même essayer de prononcer les mots en créole, en tout cas quand on chante le maloya, comme il faut.
À ce moment-là, les réunionnaises qui étaient là, elles n'avaient pas forcément cette pratique non plus. C'était tout nouveau pour elles. Qu'il y ait des réunionnaises à chaque fois, avec nous, ça augmentait l'apprentissage. Non seulement on apprenait des chants, mais j'ai commencé très vite avec toutes ces filles réunionnaises qui étaient là, à comprendre très vite aussi la culture. Le maloya, c'est la première musique qui m'a permis de chanter et de me lâcher dans du lead, parce que du coup c'est un chant à répondre, il y a toujours un leader, une leadeuse et un chœur qui répond. Et moi, j'étais tétanisée la première fois, mais tout le monde était tous tétanisés. Et puis, j'ai vu que je pouvais le faire et c'était trop bien. Et cette musique m'a mis en confiance par rapport à ma voix et par rapport à pouvoir tenir toute seule un lead. Et donc, je me suis dit, allez, vas-y, c'est cette musique qui fait que tu peux prendre un lead. Donc, prends le lead sur cette musique. Mais je n'ai pas osé. Je ne me sentais pas du tout à l'époque de créer un groupe de maloya, mais alors pas du tout. Parce que d'une, c'est pas ma musique, ma musique traditionnelle. Et aussi que le maloya, ça raconte des choses très fortes, où c'est des chants qui parlent de la Réunion, du fait d'avoir vécu là-bas, d'avoir grandi là-bas. Et je me sentais pas légitime de chanter mon pays, la Réunion. Et par contre, j'ai découvert le séga. Ça parle d'amour, ça parle de famille, ça parle de bouffe. Et donc la question de l'appropriation culturelle, elle s'est posée à ce moment-là. C'est qu'au fond de moi, clairement, j'adore le séga, mais je préfère clairement le maloya. Je me suis dit, je ne peux pas faire un groupe de maloya. Et donc, j'ai proposé à Sandra qu'on fasse un groupe de Sega. Et là, j'étais à l'aise. Je ne me suis pas posé la question tout de suite. C'est plus tard que c'est venu, quand on a commencé à faire des dates et qu'il y a des réunionnais qui allaient venir. Là, je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi qui chante là en lead du Sega. Et écoute, jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé. Apparemment, je ressemble à une réunionnaise. Donc, c'est un avantage, tu vois. Et c'est souvent après les concerts, quand les gens venaient parler avec moi en créole et que je leur disais non, mais moi je suis marocaine, et qu'ils étaient complètement hallucinés. Et c'était plutôt positif. C'était ah, c'est génial. Et aussi, je me sentais légitime parce que dans Pierrette et ses paillettes, il y avait Sandra, réunionnaise, Samuel, réunionnais, Kader et moi. Kader algérien et moi marocaine. Mais j'aurais pas pu, moi, avec d'autres personnes non réunionnaises, je me serais pas du tout sentie. Et encore aujourd'hui, je crois.
Je leur disais souvent, si un jour vous allez dans un rond maloya, vous allez pouvoir soit chanter ce morceau parce que tout le monde va le connaître, ou soit pouvoir répéter après le lead parce que c'est un morceau populaire que tout le monde connaît. Et puis dans ma tête, ça a commencé à germer. Je me suis dit, mais en fait, il faut qu'on aille à La Réunion pour qu'ils comprennent vraiment ce que c'est.
Quand on y était l'année dernière, cette histoire d'appropriation culturelle, elle était déjà beaucoup plus présente. Aussi parce qu'on en parle beaucoup plus, tout le monde en parle beaucoup plus. Puis il y a un phénomène, moi, que je remarque depuis au moins 2 ans à La Réunion, parce que je suis pas mal branchée sur les réseaux sociaux, sur plein de groupes réunionnais. En tout cas, ça fait bien 2 ans que je sens qu'il y a une pression, qu'il y a vraiment des gens qui se plaignent de ça, qui se plaignent du fait qu'il y a d'autres gens qui jouent cette musique alors qu'ils ne sont pas réunionnais, et notamment qui gagnent de l'argent avec cette musique alors qu'ils ne sont pas réunionnais. J'ai l'impression qu'ils râlent plus sur des groupes de là-bas, qui sont réunionnais pour moi de fait parce qu'ils y vivent et qui font du maloya et eux s'exportent. Alors que d'autres qui font du maloya depuis toujours et qui sont vraiment réunionnais parce que de beaucoup de générations, eux n'arrivent pas tant à s'exporter. Et on y a été cette année avec cette petite appréhension-là, à se dire qu'est-ce que vont dire les gens du fait que le Ker Maloya arrive là-bas à La Réunion. On avait un peu peur, Sandra surtout.
Je pense que les artistes, ils étaient contents, ils ont beaucoup partagé. Il y a eu la transmission, comment eux, ils abordent la voix, comment ils travaillent. Donc, on a travaillé par petits groupes. Ils nous ont vraiment donné encore et encore, quoi. C'était juste magnifique. Pour moi, j'étais à ma place en tant que réunionnaise. Je voulais ramener un groupe qui connaissaient déjà un peu le maloya, qui étaient quand même préparées, parce que tout au long de l'année et même les années précédentes, donc elles ont appris des morceaux, les différentes pratiques du maloya, le rond maloya, le service cabaret, enfin j'en ai parlé. Pour elles, le fait d'arriver à La Réunion, c'était pas en mode touriste découverte. Donc pour moi, c'était légitime. Après, des fois, je me suis un peu sentie envers les Réunionnais. Surtout parce que moi, je voulais qu'elles soient en totale immersion. Je ne les ai pas emmenées dans les services cabarets parce que pour moi, c'est des rituels, c'est des pratiques où moi, je n'ai pas accès, donc je ne voulais pas m'aventurer là-dedans. Mais par contre, je les ai emmenées dans les ronds maloya.
Ça, c'est quand même vraiment très très bien passé, et notamment par les gens qui nous ont accueillis pour les stages, et on a parlé de ça avec eux, ils nous ont dit qu'on était vraiment tout à fait légitime à faire ça, parce qu'on était dans de l'apprentissage, parce qu'on faisait ça avec respect, et que c'est Sandra qui nous apprenait. Tout le monde a dit à Sandra qu'ils étaient trop fiers d'elle, quoi, trop fiers de la voir mettre cette musique en l'air, comme on dit là-bas, tu vois. Pour eux, ils sont trop, trop contents parce qu'ils ont vraiment conscience que c'est ce genre d'initiative qui fait que cette culture, elle est connue ailleurs qu'à La Réunion.
Donc on a été d'abord invités dans un rond maloya à Saint-Denis avec les rouleurs killers, où là, eux, ils ont pris le temps de leur expliquer c'est quoi un rond maloya, comment on rentre dans un rond maloya. On a fait une initiation pour pouvoir partager le maloya avec d'autres. Et on a ouvert le rond maloya avec le chœur ce soir-là. Et après, on a fait deux autres ronds maloya à Saint-Paul et à Saint-Leu. Et dans ces ronds-là, je me suis un peu sentie, à un moment donné, un peu en faiblesse, parce que je me suis dit comment les Réunionnais percevaient ces filles métropolitaines qui arrivent et qui chantent le maloya comme ça dans leur rond. En plus, on arrive en groupe, on est 18, quoi. C'est pas juste une ou deux filles. Et puis, on commence à chanter et tout ça. Pour la petite histoire, sur les réseaux, j'ai vu, il y a eu des choses un peu négatives où moi, j'ai occulté. Ça m'a un peu touchée, mais je l'ai mis de côté. Mais je me suis rendu compte que dans ces ronds-là, ils étaient déjà au courant qu'on était là et ils nous attendaient. Donc ça, c'était super parce qu'au final, on est arrivés, on était déjà accueillis, en tout cas par les personnes qui tenaient les ronds. Et ils nous ont dit « Bienvenue, venez, chantez avec nous ». Peut-être qu'il y a des Réunionnais qui se sont dit « Ouais, encore des oreilles qui viennent chanter maloya là, chez nous, qui viennent voler notre musique et tout ça ». Mais je sais que la majorité, cette initiative-là a bien été accueillie.
Il y avait cette nana influenceuse là qui parlait de ça, et son titre c'était appropriation culturelle. Voilà ce qui se passe, ils viennent nous prendre notre culture alors qu'ils ont aucun grand-parent qui a été esclave, aucun, tu vois, ils font cette musique et ils la transforment. Et là quand j'ai vu, bon, j'entends son post à elle, je me dis oui, bon, elle y va un peu fort et tout, et moi ce qui m'a choqué c'est les commentaires. Ils n'ont rien à faire là, c'est des oreilles. Ils n'ont pas chanté notre musique, ils n'ont pas des choses très très dures. Et donc Sandra, elle a vu ça, et puis elle en a vu d'autres. Il y a eu d'autres posts. Et donc elle est partie avec cette appréhension. Et tout s'est bien passé, il y a eu un post quand même. Et qui a dit, il y a une lamontreuse maloya en ce moment à La Réunion, donc quelqu'un avec sa bande de oreilles. Mais nous, c'est une question vraiment qui s'est posée à la chorale. Hein. On n'en a pas tant parlé, mais avec certaines filles de la chorale, quand même, quoi. Ou pour qui, c'est pas évident, quoi. En fait, tant qu'il y avait rien, tant qu'on n'entendait pas de choses négatives, je pense que ça allait. Et comme il y a tout ça en ce moment, mais beaucoup plus qu'avant, là, forcément, tu te dis, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Pourquoi? Comment je le fais? Et moi, ça m'a un peu déstabilisée.
Et en tant que Malbaraise, par exemple, le service cabaret, je vais pas pratiquer. Parce que c'est un rituel qu'on ne fait pas chez nous. Et puis le service cabaret, c'est familial aussi. C'est rendre hommage aux ancêtres, etc. Moi, mes ancêtres, peut-être qu'ils viennent de Madagascar, je ne sais pas. Mais en tout cas, la majorité, ils viennent d'Inde. Puis, je suis de religion tamoule, donc je pratique cette religion-là. Comme La Réunion, c'est le métissage aussi des cultures. C'est lié et en même temps, c'est séparé. Donc, moi, en tant que réunionnaise, malbaraise qui pratique du maloya, il y a certaines choses que je ne vais pas faire, mais que je vais respecter. C'est important de connaître aussi la place qu'on peut avoir. Mais si un jour, une famille me dit « Sandra, on t'invite à notre service vient en tant qu'invité et vient chanter, je ne vais pas dire non. Mais je ne vais pas m'amuser à faire un service cabaret ou à chanter des chants qui se chantent dans ce milieu-là.
J'y étais tout doucement, et d'ailleurs j'y vais encore tout doucement, je suis pas du tout, je me sens, j'ai ce groupe Pierrette et ses paillettes, je fais partie du chœur Maloya, on fait plein de premières parties, de plein de chanteurs réunionnais, ça aussi c'est un peu une acceptation, une validation, tu vois, à chaque fois on fait les premières parties de ces artistes qui sont géniaux. Mais du coup, j'ai vachement étudié, je me suis vachement renseignée, j'ai lu des livres, j'ai appris des chansons, j'ai acheté des dicos, j'essaie de comprendre encore plus les mots, j'aimerais essayer d'écrire un peu en réunionnais, en créole.
Je trouve qu'à La Réunion, la nouvelle génération s'approprie cette musique. Avant, c'était un peu, en tout cas moi, de mon temps, c'était un peu délaissé. Mais je trouve que là, la nouvelle génération, ils s'approprient vraiment le Maloya. Il y a plein de groupes qui émergent dans l'île. Les Réunionnais, en ce moment, ils veulent vraiment se réapproprier leur musique traditionnelle. Et ça pose aussi certaines questions par rapport aux oreilles qui sont nées à La Réunion, de parents oreilles qui sont installées là-bas. Est-ce que ce sont des Réunionnais ou pas? Est-ce qu'ils sont légitimes à faire de la musique traditionnelle ou pas? Donc il y a eu pas mal de polémiques sur certains artistes. Je pense que, enfin, en ce moment, je trouve qu'à La Réunion, il y a quand même ce combat dans la communauté réunionnaise qui se joue. Et des fois, c'est difficile. C'est vraiment difficile de trouver la frontière, quoi.
J'ai entendu là-bas souvent, oui, tu vois les oreilles, mais toi, t'es pas vraiment oreille. Alors qu'en fait, je suis oreille. Je suis née en France, j'ai grandi en France, je suis française, hein, je suis d'origine marocaine. Effectivement. Le fait d'avoir un continent commun, ça fait que ça passe un peu mieux. Je me suis retrouvée, si tu veux, aussi dans je fréquente pas énormément de Marocains en France. Et il y a eu un truc où avec les Réunionnais, je me suis tout de suite sentie comme au bled, quoi. Je me suis sentie pas réunionnaise, mais à la maison. Enfin, c'est l'Afrique, quoi.
Je trouve qu'on a une manière différente d'accueillir les personnes qui sont d'origine peut-être afro ou autre, par exemple un Brésilien ou bien un Algérien ou autre qui veulent apprendre le Maloya, c'est différent qu'un Zoray justement qui va vouloir venir parce qu'on va, en tout cas, on va vouloir aussi apprendre de sa culture aussi et chercher un rapprochement. Et après, on se dit, ah, mais oui, mais c'est vrai qu'on a la même histoire et notre musique a la même histoire. Et même si la rythmique est différente, ben, on se retrouve là-dedans. On sait que c'est différent, mais en même temps, on a la même histoire, le même vécu.
À ce moment de notre enquête, nous voyons bien que la pratique même du Maloya peut mener à re-questionner les catégories de oreilles ou de blancs. Est-ce qu'on peut devenir réunionnais pour de bon alors que nos parents sont oreilles? Et finalement, est-ce qu'on reste un ou une oreille si on est racisé? Et derrière ces questions d'identité, sur quoi s'appuie réellement le conflit autour de l'appropriation culturelle?
Il y a beaucoup de oreilles qui s'installent à La Réunion, qui ont plus de thunes, qui prennent des postes que les Réunionnais n'arrivent pas à avoir. Donc ça, c'est une vérité. Ce qu'on peut voir ici dans les grandes villes, par exemple, tu le vois là-bas à une échelle plus petite, parce que La Réunion, c'est vraiment petit. Et donc tout a augmenté, les loyers sont hyper chers, les Réunionnais galèrent. Il y a des gros problèmes par rapport à des postes, notamment en ce moment, à des postes clés qui sont donnés à des Blancs plutôt qu'à des Créoles. Comme il y a ça, de fait, qui existe depuis un moment et encore plus en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a un peu un mélange. Tu vois, comme les gens en ont marre, tu vois, c'est encore les Blancs qui passent avant eux. Ça se mélange aussi à la musique, quoi. Et à ce qui leur reste, finalement, le Maloya, c'est pas ce qui leur reste, mais c'est quand même la musique traditionnelle et c'est la musique qui représente le plus l'île à l'époque de l'esclavage. C'est aussi une envie de dire, j'imagine, c'est notre île, c'est chez nous, c'est notre musique, quoi. C'est encore particulier, cette histoire de concurrence, parce que c'est quand même à 12 000 km d'ici. C'est aussi les professionnels, enfin les tourneurs, clairement, ils ont plus d'intérêt financièrement à faire tourner un groupe de Maloya qui est déjà en France, plutôt qu'à faire venir un groupe de La Réunion. Et donc il y a aussi, je pense qu'ils se trompent d'ennemis. C'est pas à cause de ceux qui font le Maloya en France, mais c'est plutôt du fait que ce soit loin et qu'il n'y a pas les moyens de la part du gouvernement français pour que les gens de La Réunion puissent venir faire leur musique ici, quoi.
C'est toute une histoire qui découle de la colonisation. Pendant longtemps, en tant que Réunionnais, on nous a toujours dit que les oreilles étaient plus intelligentes, c'est eux qui sont au-dessus de nous. Déjà, ils sont blancs, nous, on est trop noirs. Et donc, il y a ce truc d'infériorité qui plane. On ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est là. Et ça se ressent dans la société aussi, pas forcément que dans la musique. Et le maloya, c'est la musique de noir, c'est la musique de pauvre, c'est la musique de kaf. Avant, et même à l'époque de mes parents, c'est souvent ce qu'on disait. Moi, c'est ce qu'on me disait, moi, en tant que malbaraise, de réunionnaise d'origine indienne. Ouais, tu vas pas aller jouer avec les kaf, tu vas pas aller jouer le maloya. Reste à ta place, quoi. Reste dans ta communauté ou quoi. Donc, il y a ce truc-là de classe sociale, de pas avoir accès à la même culture, à l'école aussi. Les Réunionnais, on apprend le créole avant le français. Et quand on arrive à l'école, les Français, ils savent déjà bien parler. Nous, on apprend à parler français à l'école. Puis, à mon époque, par exemple, à l'école primaire, il fallait parler français, pas créole. Mais souvent, on se trompe. Et puis, on se dit, en fait, je suis bête, j'arrive pas à parler français. On se dévalorise nous-mêmes. Mais ça découle de la colonisation, de nos ancêtres. Et mes parents qui me disaient, oui, il faut que tu parles français pour réussir dans la vie, pour avoir un bon travail. Arrête de parler créole. Dis maman, dis pas momon. Momon, c'est moche, c'est sale, c'est pas beau. On était vraiment élevés avec ça dans la tête. Et du coup, effectivement, le maloya aussi, les gens qui pratiquent, maintenant, c'est un peu plus connu, c'est un peu plus généralisé, etc. Mais avant, c'était les classes qui étaient plus pauvres, quoi, qui n'avaient pas forcément accès à tout et qui pratiquaient cette musique-là. Aujourd'hui, le fait que la nouvelle génération est beaucoup plus consciente des choses, que les Réunionnais, maintenant, ils font des études, ils vont ailleurs, ils sont instruits, ils retournent dans leur pays, ils sont conscients de leur histoire aussi. Parce que moi, à mon époque, on m'a jamais appris l'histoire de la Réunion. Donc c'est en arrivant ici, en créant mon association, et quand les gens me disent « Oui, alors la Réunion, c'est quoi l'histoire, l'esclavage, machin, d'accord, mais je savais pas, je connaissais pas. » Donc je suis allée apprendre mon histoire. Donc maintenant, les jeunes, ils connaissent un peu plus, ils sont instruits, ils ont fait les études ailleurs qu'à La Réunion, ils ont voyagé. Quand ils reviennent sur l'île, il y a des choses qui sont moins acceptées qu'avant. Et ils parlent un peu plus qu'avant, parce qu'avant aussi, on disait, oui, faut pas parler, faut rien dire, il faut rester silencieux, pas se faire remarquer. Et ça nous a pas aidés dans l'expression et dans l'appropriation de notre culture, parce que nous, on nous a appris à ne pas aimer notre culture. Donc, et ne pas être fier de ce qu'on est et de notre héritage. C'est en train de changer et ça entraîne justement tous ces débats qui sont animés dans l'île. Et je trouve ça intéressant. Et souvent, c'est pas forcément les personnes qui sont attaquées qui... Enfin, c'est pas forcément de leur faute, quoi. C'est malheureux à dire, hein. Mais c'est comme ça. C'est que là, on a envie de s'approprier notre musique à nous, de dire c'est à nous. Mais en même temps, il faut pas qu'on se ferme. Et c'est ça le danger de la dérive.
Sandra et Sana nous racontent comment le phénomène d'appropriation culturelle vivement dénoncé sur l'île de la Réunion permet finalement de mettre en exergue des relations d'inégalité concrètes. Nous avons aussi vu comment la notion de race apparaît au cœur de cette question de l'appropriation et comment parler de blanc et de non-blanc revient à parler de relations asymétriques. Pour commencer à déplier ce qui s'entremêle dans cette histoire, j'ai fait appel à l'anthropologue Harry Gordien, spécialiste des rapports sociaux de race et de la mémoire de l'esclavage.
On a clairement considéré que, à la suite de travaux de généticiens, de biologistes des populations, que la notion de race ne peut pas être utilisée pour distinguer les différents types d'êtres humains. En revanche, assez clairement, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, l'idée s'est imposée que les races n'existaient pas, mais que le racisme existait. Il y a eu toute une tendance à analyser les idéologies racistes et parfois aussi les inégalités raciales qui persistaient. Cette condamnation du racisme dans la pensée intellectuelle française, à de rares exceptions, elle a conduit à en faire une sorte de tabou, comme si parler de race signifiait être raciste, et que, comme il n'existait pas de race et qu'il n'était pas bien vu de parler de race, et qu'on associait ce terme-là véritablement à des différences biologiques et à une pensée raciste du 19e siècle, reprise après par les mouvements fascistes, nazis, etc., qu'il fallait peut-être un peu balayer la poussière sous le tapis. Et pendant assez longtemps, même s'il y a eu des travaux de Françaises et de Français très importants sur la question, je pense à Frantz Fanon, ce psychiatre martiniquais qui a rejoint le mouvement de libération algérien, qui a théorisé en tant que psychiatre aussi sur la race, le racisme, le colonialisme. Il y a Colette Guillaumin et un certain nombre de sociologues qui ont expliqué que bien sûr que les races n'existaient pas, qu'il y avait des processus de racisation dès 1972, donc il y a une pensée française sur ces questions-là, qui est assez complexe, complète et qui apporte un certain nombre d'éléments. Mais globalement, sur le plan de la structuration de la recherche française, ces thématiques-là ne se sont pas constituées en champ de recherche, contrairement à ce qui s'est produit aux États-Unis où on ne pouvait pas mettre de côté la question raciale, puisqu'après l'esclavage, il y a eu la ségrégation jusque dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y avait des formes d'exclusion. En France, la question de l'immigration venait quelque part brouiller les pistes, puisqu'on parlait plutôt d'intégration, d'assimilation des étrangers, et non pas de racisme, de discrimination. Et il faut attendre les années 2000 pour que, politiquement d'abord, et par la suite sur le plan académique, il y ait une vraie réflexion sur ces discriminations, qui est une prise de conscience du fait qu'on ne parlait pas d'étrangers qui s'intégraient ou qui devaient s'assimiler, mais de Français avec des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents issus des anciennes colonies, qui avaient des droits et des devoirs, mais à qui certains droits étaient déniés du fait de discrimination. Et là, on en est à un stade où cette prise de conscience est faite dans certains milieux, mais il y a une résistance, double résistance. Premièrement, une résistance de la part d'intellectuels se qualifiant de droite, qui considèrent que ce sont les personnes qui abordent le racisme, qui sont racistes et qui divisent la population. On a aussi une résistance de la part de marxistes, qui par orthodoxie marxiste considèrent que le critère principal c'est la lutte des classes et la question sociale. Et que lorsqu'on évoque la question raciale, on vient diviser la classe des travailleurs. Il y a un troisième mouvement en réaction à ça qui consiste à aborder frontalement la question raciale en disant qu'il existe une question raciale en France, qu'il faut la prendre à bras-le-corps, mais qui, pour le coup, comme pour tordre le bâton dans l'autre sens, va avoir tendance à d'abord analyser les questions en termes raciaux, comme rapport de racisation, de construction d'une différence raciale, de reproduction d'inégalités, de préjugés. Et ça donne des choses tout à fait innovantes dans le champ universitaire français, mais ça vient créer quelques frictions, puisque on se demande dans quelle mesure cette manière d'aborder ces questions-là, d'abord à travers le prisme de la race, ne conduit pas à minimiser une forme d'intersectionnalité. Que fait-on de la classe ? Est-ce qu'on la relègue au second plan ? Est-ce qu'on l'articule avec la race ? Comment ? Qu'en est-il du genre, du validisme, des questions de sexualité ? Donc ça vient soulever tout un tas de questions très intéressante et importante, mais pour lequel il n'y a pas de réponse facile, en fait. Ça soulève de nouveaux défis, en fait. Comment prendre en compte la complexité des rapports sociaux ?
Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec cette notion de culture et d'appropriation ? On y vient. Et qu'en est-il, anthropologiquement parlant, quoi, de cette notion d'appropriation ?
Sur le plan de l'anthropologie, pour le moment, je n'ai pas l'impression, en France en tout cas, que nous, anthropologues, nous nous soyons saisis de cette notion-là pour en faire vraiment une catégorie à partir de laquelle on explore le monde social. On en est encore à un stade où on observe avec prudence cette catégorie dont on n'a pas encore très bien compris d'où elle venait. On n'a pas encore compris qui concrètement a proposé cette notion, dans quel but. Mais ce qu'on constate, c'est que la manière dont elle est utilisée est plutôt politique. Elle vise surtout à condamner certains usages de pratiques culturelles, surtout par les personnes considérées comme occidentales, blanches, majoritaires, voire dominantes, donc, et qui utiliseraient ou se voleraient ou s'approprieraient, surtout dans le monde artistique et créatif, des bijoux, des artefacts, ça peut être aussi des œuvres d'art dans les musées, des musiques, des danses, des styles vestimentaires qui sont perçus comme appartenant à des minorités ethno-raciales ou à des populations non occidentales. L'appropriation culturelle est surtout utilisée pour dénoncer ces formes d'emprunt culturel. Le problème, il est le suivant, c'est-à-dire que en tant qu'anthropologue, on a appris à ne plus distinguer les populations de manière rigide, que ce soit sur un plan racial, biologique, génétique ou sur un plan culturel. Pendant un moment, on l'a cru, même nous, anthropologues, qu'il y avait les X, les Y, les Z, que c'était des populations bien déterminées, etc., jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, toutes les populations sont issues de mélanges, de rencontres, et qu'en fait, à partir du moment où une de ces populations dit « je suis X », en fait, elle est déjà dans un processus politique de construction d'elle-même pour défendre des intérêts matériels et symboliques, c'est-à-dire défendre un terrain, défendre l'accès à telle ressource ou se valoriser par rapport aux autres. Dans ce sens-là, il devient compliqué lorsqu'on a affaire aux discours de populations historiquement dominées, racisées, etc., qui empruntent le même discours en disant « nous sommes des X et les Y dominants, blancs, occidentaux, nous volent ce qui nous appartient à nous et qui n'est rien qu'à nous », mais ça vient en fait nous bousculer, ça nous met un peu dans l'embarras, on se dit « mais en fait, ce discours essentialiste, culturaliste de notre culture, votre culture », si on le déconstruit lorsqu'il vient des dominants, qu'est-ce qu'on en fait lorsqu'il vient des dominés ? Est-ce qu'on le déconstruit de la même manière ? Quels autres enjeux, puisqu'ils sont forcément différents quand ça vient des dominés, quels sont les autres enjeux qui se posent lorsque ces discours-là viennent des dominés ou des personnes qui se ressentent comme dominées, altérisées, etc. etc. Et en fait, je pense que c'est tout le débat un peu académique et politique, puisque les deux sont à différencier, mais toujours articulés. De ces deux points de vue-là, comment se débrouiller en fait avec la notion d'appropriation culturelle ? Je me demande si on parle véritablement de culture. C'est un peu l'analyse que j'en ai faite et que je suggère. Hein. C'est vraiment un moment de ma réflexion qui sera sans doute amené à évoluer. Bien sûr, on parle de production culturelle, hein, ça c'est sûr. Effectivement, c'était quoi ? La mode, la musique, le cinéma, la coiffure. Donc vraiment, on parle de production culturelle, de pratique culturelle à chaque fois, de yoga, de rap, qui peut faire du rock'n'roll, qui peut faire du R&B, etc. Donc on voit quand même que ça concerne des objets culturels. Mais il m'a semblé qu'à chaque fois, la question sous-jacente n'était pas forcément l'objet culturel, c'était plutôt la légitimité d'une personne non issue de telle population historiquement altérisée, subalternisée, etc., de la pratique ou d'une culture d'une population qui a été historiquement subalternisée, esclavisée, altérisée, par des populations communément désignées comme blanches, issues du monde occidental et perçues comme dominantes. Donc il me semble que derrière, finalement, la question véritablement culturelle, se posait la question raciale et la question coloniale, c'est-à-dire la question des inégalités et des rapports de force instaurés par l'histoire coloniale et qui se reproduisent dans l'ère postcoloniale dans laquelle on se trouve et dont on ne sortira jamais, puisque la colonisation, il y aura toujours un après-colonisation quelque part. Donc c'est surtout qu'on vit dans un monde qui a hérité un ordre mondial et des ordres sociaux au sein des différents États, que ce soit au Brésil, aux États-Unis, en France et ailleurs, qui ont hérité de rapports sociaux qui sont généalogiquement issus de cette histoire coloniale et esclavagiste. Je vois qu'on est dans un monde où il y a une conscience de plus en plus aiguë qui passe par les réseaux sociaux, qui passe aussi par une forme d'hégémonie états-unienne, une évidence de la race qui empêchait de faire et qui continue à empêcher de faire comme si ça n'existait pas. Alors qu'en France, comme dans d'autres pays européens, avec l'histoire coloniale et l'histoire des immigrations, il y a pu y avoir l'impression que c'était une question qui concernait des ailleurs et qui ne concernait pas ces espaces européens. Et j'ai l'impression que cette focalisation sur le débat autour de l'appropriation culturelle est aussi l'une des déclinaisons de la manière dont on prend conscience des effets au long terme de l'histoire coloniale et esclavagiste.
Cette question de la légitimité, elle est centrale parce qu'elle aurait comme force politique de permettre à des groupes qui ont été délégitimés de faire des procès en légitimité aux dominants. Et ça, c'est quelque chose d'assez récent. Enfin, c'est vraiment là que ça se passe, en tout cas, dans ce domaine des objets culturels.
Complètement, puisque pendant longtemps, je pense qu'il n'y avait pas de légitimité politique à poser ces questions-là. Et à partir du moment où il existe une population, pour ce qui concerne la France, qui est née, qui a grandi dans l'Hexagone, non pas outre-mer et non pas dans d'anciennes colonies ou d'autres espaces, qui a grandi sur ce territoire national, qui a des droits et des devoirs, qui a des grands-parents, des arrière-grands-parents qui sont aussi des citoyens français, il y a un sentiment de plus grande légitimité à aborder ces questions-là. Et peut-être aussi des formes de lassitude qui expliquent qu'il n'y ait plus de volonté de faire avec, ou en tout cas qu'il n'y ait plus de volonté d'attendre, d'être patient. Il y a une forme d'urgence, en fait, de la revendication, de reconnaissance, d'égalité immédiate. Et je pense aussi que c'est l'histoire des idées qui veut ça. J'ai parlé des réseaux sociaux tout à l'heure. Je pense vraiment qu'avec les réseaux sociaux, des écoles de pensée comme les auteurs décoloniaux, qui en tout cas sont relayés par des mouvements politiques, relayés par des influenceurs, etc., je pense que tout ça explique aussi que des générations plus jeunes se saisissent de ces idées-là pour revendiquer leur place. Il y a peut-être aussi, comme ils disent aux États-Unis, la notion de payback, pas de vengeance, en termes on va inverser les rôles, mais de payback dans le sens où nous sommes sentis tellement longtemps illégitimes à parler que maintenant que nous pouvons le faire et que nous pouvons le faire avec ces armes-là, ben nous le ferons de manière décomplexée, voire dans certains cas avec une forme d'outrance et de provocation.
Merci Harry Gordien, merci Sandra Richard et Sana El Bajnouni, merci au groupe Le Ker Maloya et Pierrette et ses paillettes. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine chronique pour continuer cette enquête depuis l'Occident, depuis Marseille, depuis nos pratiques ordinaires d'appropriation. Et la musique, elle est à qui ? Chronique marseillaise et impertinente d'appropriation manifeste. Podcast réalisé par Anaïs Vaillant et proposé par la FAMDT.